Père André Cab, vous avez fait un doctorat en théologie et surtout vous avez écrit une thèse sur le sens des apparitions et des pèlerinages. Et puis on lit que vous êtes un spécialiste de la Vierge Marie. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est spécialiste de la Vierge Marie?
Oh, ce serait horrible sans doute, parce que pauvre maman Marie, nous en ferions l'objet d'une étude, alors qu'elle est surtout le réceptacle d'un amour. Je suis de la région de Lourdes et j'ai été sans doute en pèlerinage à Lourdes dans le ventre de ma maman. Donc elle m'a accompagné, elle m'a enfanté, je peux dire qu'à des moments de crise, elle a toujours été là. De même, semble-t-il, que pour beaucoup de gens qui se disent incroyants, ils se tourneront vers elle. Mystérieusement, nous avons besoin de cette présence féminine, non pas comme une compensation à notre sécheresse ou à notre pauvreté, mais parce que, en fait, nous ne sommes pas nous-mêmes notre propre origine et qu'il faut bien que nous découvrions notre source. Et c'est en elle que nous allons la trouver.
Comment avez-vous découvert cette source qui est pour vous Marie?
Alors, je l'ai découverte donc de manière sans doute inconsciente, portée par la tradition familiale, la tradition de ma paroisse, des écoles dans lesquelles j'ai été. Mais je peux dire qu'il y a peut-être un moment où, quand même, j'ai été frappé. J'avais 25 ans, j'étais diacre et on m'avait demandé de penser à m'occuper de l'accueil des jeunes à Lourdes. Et on avait pour cela organisé une session à Nevers. Et je me souviens toujours de cette émotion en entrant dans la chapelle du couvent Saint-Gildard et en allant vers la châsse où est contenu le corps conservé de la petite Bernadette. J'ai vraiment eu le sentiment, et je crois que j'aime dire aujourd'hui encore, si vous voulez savoir à quoi Marie ressemblait au jour de l'Annonciation, allez à Saint-Gildard, regardez le petit corps de Bernadette, morte à 35 ans. Donc. Elle est toute jeune, elle dort. Elle attend simplement que vous la réveilliez. Elle attend simplement que vous vous laissiez guider, conduire par elle. Hein. Sachant que c'est dans cette paix du sommeil et que le Seigneur finalement peut agir en nous. Hein. Souvent, il parle en songe à travers la Bible. Donc, pour moi, le chemin d'accès au cœur de Marie, ça a sans doute été la petite Bernadette. Elle est celle en qui Marie a pu se reconnaître. Et c'est pour ça qu'elle l'a vue.
Vous avez été au sanctuaire de Lourdes pendant de longues années. Comment aujourd'hui Marie rejoint-elle le cœur des hommes? Des hommes incroyants, des hommes qui cherchent, des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément en syntonie ou en connexion avec tout ça.
Non, mais vous savez ce que je dis, moi je le dis avec mes pauvres mots, hein, mais je crois que c'est une réalité profondément vécue. Les gens qui arrivent devant ce trou noir du rocher, ils revivent l'expérience de Bernadette. Elle était le 11 février 1858, elle avait donc 14 ans, n'était encore jamais allée à l'école, elle n'avait pas fait sa première communion, et c'est pour cela qu'elle était revenue à Lourdes, à Bartrès, où elle était allée passer quelque temps chez sa nourrice pour respirer un peu mieux son asthme dans le pauvre cachot où sa famille habitait. Et là, ce jour-là, elles allaient avec sa sœur et une amie chercher du vieux bois. Elles arrivent à cet endroit où le canal des Moulins rejoint le Gave, elles ne peuvent pas aller plus loin. Pour sa sœur et son amie, pas de problème, elles jettent leurs sabots de l'autre côté, elles traversent l'eau froide du canal en criant un peu, mais elles vont chercher dans ce renfoncement du rocher, que nous appelons pompeusement la grotte, tout ce que le Gave avait déposé. Elle disait une vraie mine de vieux bois et d'ossements. Mais Bernadette, on lui a bien recommandé de ne pas prendre froid, elle est la seule qui a le droit de porter des chaussettes dans ses sabots. Quand elle demande à son amie et à sa sœur de l'aider, elle dit « Oh, débrouille-toi, fais comme nous ». Elle est dans une impasse. Elle est devant ce trou noir du rocher, une face nord, qui ne voit jamais le soleil. Elle est devant un canal d'eau froide. Même cette pauvre richesse qui est à sa disposition en face de l'autre côté du canal, elle ne peut pas l'atteindre. C'est l'image de sa vie. Je crois que beaucoup de gens qui atterrissent là à Lourdes, ils sont devant un trou noir. Et mystérieusement, au moment où elle se décide quand même à enlever ses chaussettes, il faut bien qu'elle fasse quelque chose, ne pas retourner en arrière, elle entend un bruit comme un coup de vent. Se retourne, les branches d'arbres ne remuent pas. Elle continue de se déchausser. Elle lève les yeux et dans ce trou noir du rocher, donc qui ne voit jamais le soleil, une lumière. Et petit à petit, cette lumière prend visage. Donc elle entend, elle voit. Si elle ne s'était pas arrêtée, si elle avait continué de courir comme les deux autres, elle n'aurait rien vu, rien entendu. Je crois que Lourdes est la figure de ces impasses de nos vies où mystérieusement, une espérance se lève. Et je crois que ça reste ça. Hein. Pour beaucoup de gens, pour ceux qui viennent en pèlerinage, pour ceux qui viennent en passant, hein, ils s'arrêtent dans ce trou noir du rocher. Ils regardent, ils entendent l'eau qui coule. Il y a une présence, il y a quelqu'un.
Père André Cab, vous avez connu aussi dans votre vie des impasses. Vous avez connu une grande épreuve avec la mort de votre frère de façon terrible. Comment la présence de Marie vous a rejoint au cœur justement de cette peut-être de cette grotte obscure.
La première réaction de maman, quand en pleine nuit on venait, on a lui appris que Jean-Luc, mon frère, avait été tué. Elle est donc allée à l'hôpital, elle a attendu évidemment qu'on amène le corps. Devant ce corps, elle a récité le chapelet, les mystères glorieux. C'était le lieu de la prière. Et on a parlé ensuite du pardon, des choses, mais le pardon a été comme en sorte donné, inclus dans une attitude de, on peut dire, d'accueil. Terrible, mais d'accueil. J'ai pu ressentir, quand j'ai appris la nouvelle, et j'ai pu venir moi aussi, comme un appel. S'il y a en toi la foi en une autre vie, en un bonheur qui n'est pas de ce monde, s'il y a en toi cette présence au creux du rocher, ben, c'est le moment de l'accueillir. Mystérieusement, cette absence atroce de ce petit frère pouvait devenir le lieu d'une présence nouvelle. Et je peux dire que cette blessure m'a guéri d'une certaine manière, d'un certain égocentrisme, d'une certaine préoccupation de moi-même, qui revient, hélas, si souvent. Mais il y a quand même désormais quelque chose, une blessure qui ne peut pas se refermer et qui donc fait que ma pauvre vie est ouverte. Douloureusement ouverte, mais elle ne peut pas se refermer sur elle-même. Il y a forcément une attente. Ce petit frère, je veux le revoir. Nous avons pu dire avec mes parents, quand on s'est interrogé évidemment sur nos réactions, on a dit certainement, si nous pouvions revenir en arrière, nous ne voudrions pas revivre ce que nous avons vécu. Mais nous ne voulons pas revenir en arrière. Désormais, ce que nous avons vécu est pour nous une grâce et un chemin, même si c'est la croix. Or, on voit bien que Bernadette, qui dans les premiers moments des apparitions a vécu dans une espèce d'extase de bonheur, les gens venaient, ils venaient voir, non pas la Vierge Marie, que personne ne voyait, mais ils voyaient le visage de Bernadette. On avait dit à une petite bourgeoise de Lourdes, « Viens, tu vas voir plus beau que Rachel, la star de l'époque que les bourgeois de Lourdes allaient voir au théâtre de Bordeaux. » Et malheureusement, ce jour-là, elle sortira de l'apparition en disant, « Mais en fait, de Rachel, vous m'avez amené voir une petite merdeuse. » Parce que ce jour-là, Bernadette a été invitée à gratter dans la boue et à se barbouiller de boue. Elle a été non plus transfigurée, mais défigurée. Et ce n'est que pour les gens ensuite qui, étonnés de voir ce geste, ont désiré le poursuivre, que cette boue est devenue une source d'eau pure. Mais il a fallu gratter dans la boue, et ça c'était le rôle de Bernadette. Je crois qu'il y a des moments dans notre vie où nous n'atteindrons pas la source si nous ne grattons pas dans la boue. Nous resterons à la surface. Nous resterons une espèce de plaisir épidermique, mais la vraie joie ne pourra pas jaillir, parce que nous sommes malheureusement marqué par le péché, par le refus, par l'égoïsme. On me demande et je dis non, je ne tends pas spontanément l'autre joue, je ne tends pas spontanément ma tunique si on m'a pris mon manteau. Et il faut pourtant que ma vie s'ouvre. Et ça ne pourra se faire qu'à travers cette blessure, à travers cette croix. La croix, disait je crois Olivier Clément, est ce pieu enfoncé dans le monde pour qu'il ne puisse plus se refermer sur lui-même.
Est-ce que ce creuset en vous vous a permis de rejoindre à la fois la souffrance à travers la porte de l'espérance?
Chaque souffrance est unique. On ne peut pas dire « je connais la souffrance, donc je te comprends ». Par contre, Bernadette était justement attentive aux souffrants, elle-même souffrante toute sa vie. Elle a donc eu le choléra quand elle avait 4 ans, et elle en gardera donc cet asthme qui la faisait beaucoup souffrir. Elle mourra malade à 35 ans, elle a été infirmière, mais tout aussi longtemps malade à l'infirmerie de Nevers. Et en même temps, elle avait à la fois sans doute par sa pauvreté, mais aussi par cette espèce de tempérament solide qui était le sien, elle avait une sorte d'empathie, dirait-on aujourd'hui, avec ce qui se présentait à elle. Donc je crois qu'effectivement, la souffrance, elle peut, au fond, avoir deux issues, soit un raidissement et une peur qui nous enferme encore plus en nous-mêmes, soit un abandon et une confiance qui, peut-être alors, nous permettent de respecter silencieusement la souffrance des autres.